pour investir, le placement à suivre.
Arnaud Gian de BlackRock, bonjour. Merci
bonjour,
d'être avec nous en direct parce que c'est vrai qu'on a l'œil alors rivé sur le marché européen, le marché américain. Le week-end, on regarde les places boursières du côté des Émirats pour voir comment ça réagit. Bon, on est un petit peu sur le fil du rasoir. Mais au milieu de tout ça, les terres émergentes, hein, les économies émergentes, qu'est-ce qu'on en fait en ce milieu d'année? On s'est beaucoup posé la question en début d'année sur l'opportunité de réinvestir dans les émergents. Et c'est vrai que la crise, la guerre, tout ça a rabattu un petit peu les cartes du fait de l'impact énergétique. On s'est posé la question d'ailleurs en début d'émission de l'impact réel sur l'économie chinoise, par exemple. Bon, est-ce encore une économie émergente? La question reste posée. Mais au milieu de tout ça, on a l'impression d'un bloc des pays émergents sur lesquels on investit traditionnellement qui a tendance à complètement se fragmenter. Est-ce que c'est le sentiment que vous retenez au vu de ce qui se passe en ce moment?
Alors déjà, effectivement, la raison pour laquelle je voulais absolument parler des émergents, c'est qu'il y a un vrai phénomène depuis un an et on en parle assez peu vis-à-vis des forces en présence. En fait, depuis un an, c'est vrai qu'on a, pour le contexte, on a traversé depuis la sortie du Covid un désamour des émergents qui était assez marqué, avec beaucoup de ventes. Mm. Il y avait beaucoup d'espoir à la réouverture du Covid sur la Chine. Ça paraît déjà très loin derrière nous. Mais effectivement, on a eu une année 2022 et 2023 absolument terrible et donc des sous-pondérations. Et en fait, depuis 2025, le rebond est extrêmement fort. Et en fait, s'intensifie mois après mois. Donc, on a eu pas loin de 150 milliards d'investis dans le monde des ETP sur les émergents l'année dernière, ce qui est historique, ce qui est colossal et qui dépasse trois fois ce qu'on a connu sur les années précédentes.
C'est curieux que ce soit passé, alors, j'allais dire sous le radar, parce qu'on est vraiment resté rivé sur...
C'est ça, en fait, on a gardé les mêmes curseurs et le même radar qu'on avait, la même boussole qu'on avait avant, qui était rivé toute Amérique. Ouais. Et en fait, donc il y a eu ça, il y a eu donc, les flux est forcément accompagné aussi d'une très bonne performance. Donc on a des performances sur 2025 qui étaient deux fois meilleures que dans les pays développés, quand on regarde les grands indices, que ce soit d'ailleurs le marché américain ou européen. Et en fait, si on regarde les explications à cela, pour nous il y en a trois. La principale, c'est effectivement, on a parlé régulièrement de ce tout Amérique, tout États-Unis, le côté US exceptionnalism, était un peu le mot, qui est en fait la fin, j'ai envie de dire, ou l'arrêt en tout cas, de cette phase. C'est la première explication et j'y reviendrai. La deuxième explication, c'est le positionnement géopolitique, puisqu'on parle beaucoup en fait de onshoring, offshoring, souveraineté. Et la place en fait des émergents est assez unique là-dedans et plutôt bien positionnée. Et le troisième, c'est un contexte à la fois macro et aussi sectoriel qui est plutôt bien aligné par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'économie.
Bien sûr. Alors, ça peut aussi s'expliquer, cette espèce de biais qu'on n'ait pas vu venir, par exemple, l'explosion de tout le secteur de la mémoire et des semi-conducteurs à mémoire, qui a complètement fait exploser les capitalisations en Corée du Sud, par exemple.
Alors, effectivement. Alors ça, c'est vraiment sur le troisième pilier qui est, qui est sur le positionnement. Peut-être juste pour revenir très rapidement sur le premier et le côté tout Amérique, on parle d'un phénomène de dédollarisation de l'économie, où en fait, il y a eu un mouvement qui s'est enclenché, on va dire, depuis le Liberation Day.
Oui, tout à fait.
Un peu autour de ça, dans lequel... on a quand même structurellement, on a tendance à voir des ventes d'actifs américains, en plus libellés en dollars, et investir beaucoup plus en international, donc que ce soit Europe ou émergents. Émergents davantage. Et pour le rappel, les émergents représentent uniquement 10% de la capitalisation boursière globale. Donc quand on a un phénomène où on attire un tiers des flux, alors même qu'on représente une toute petite partie de la cote, c'est que la force est quand même très importante. Et en fait, la vente d'actifs en dollars pèse aussi sur le dollar. On parle souvent du cours au dollar.
Tout à fait,
Et en fait, ce poids sur le dollar facilite aussi le financement des économies émergentes qui, en fait, empruntent beaucoup en dollars. Donc en fait, on a une sorte de cercle vertueux qui s'est enclenché de ce côté-là et qui aide, qui favorise énormément ces économies.
Et en plus, fondamentalement, alors, hormis toute considération à base de coût de l'énergie, coût de l'alimentation et de certaines matières premières critiques, que ce soit les engrais, etc., le contexte fondamental d'inflation est peut-être beaucoup moins compliqué à gérer du côté des pays émergents que du côté de la Fed ou du côté de la BCE.
Ils sont en fait en avance de phase sur le cycle économique. Ouais, ont, d'un point de vue politique monétaire, ils ont déjà fait une partie du travail avant nous. Mmh. Ils ont des taux réels qui sont positifs. Ils ont des marges de manœuvre qui sont supérieures à nous. Et effectivement, dans beaucoup de zones, ils ont déjà géré les problématiques inflationnistes qui étaient même pires que ce qu'on avait dans le pays développé.
Oui, bien sûr.
Mais ils ont fait déjà un gros travail. Et donc, du coup, ils ont retrouvé ces marges de manœuvre. Pour revenir sur votre point, sur la partie dépendance aux matières premières, et en fait, c'est assez intéressant, c'était un peu mon deuxième point, sur le fait qu'en termes de positionnement, on sait qu'aujourd'hui, l'économie est bipolaire. On a le bloc Amérique, le bloc Chine, et on peut parler de savoir si la Chine est vraiment un pays émergent. Mais en fait, à l'intérieur, on a, comme vous dites, tous ces territoires émergents. Et en fait, on est passé de l'offshoring sur les 20 dernières années à de l'onshoring, souveraineté, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur du friendshoring. On ne peut pas tout faire seul. On a besoin de partenaires. Et en fait, la place des émergents est assez unique parce qu'elles arrivent encore à nouer des liens avec les exportateurs de matières premières, et beaucoup en fait sont dans les pays émergents. Donc elles arrivent en tout cas à avoir des prix de matières premières qui sont à peu près décents. Certains même en bénéficient parce qu'ils sont exportateurs, et ils sont pas encore sortis. En tout cas, il y a pas de rien qui pèse sur les exportations vers l'Occident. Donc aujourd'hui, en fait, elles ont un positionnement qui est plutôt assez intéressant. Et donc, quand on regarde maintenant d'un point de vue positionnement sectoriel et conjoncturel, vous avez le bloc LATAM qui est exportateur de matières premières et qui, depuis en fait la fin du Covid, a forcément un alignement de planète et un vent dans le dos.
On ne voit pas
cela s'arrêter parce qu'aujourd'hui, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur les besoins en matières premières, elles se font ressentir. Avec cette idée de souveraineté, ça crée des tensions inflationnistes sur les matières premières. Donc tout cela est plutôt bon. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, les performances étaient très bonnes et elles continuent à l'être depuis le début de l'année. Quand on regarde le bloc Asie, et donc là, je vais revenir sur votre point, on a un virage qui était plutôt vers la tech, qui s'est dessiné assez tôt. Et donc, quand on regarde, par exemple, en 2025, quelque chose qui est assez frappant, on a eu un record historique de collecte et d'investissement sur le front de la tech, boosté par l'AI.
En gros, oui, tout à fait, oui.
À l'échelle globale, on était sur plus de 100 milliards. 75% de ces plus de 100 milliards étaient en dehors des États-Unis. Donc, les GAFAM et les investissements qu'on a connus dans les années d'avant, pas du tout le schéma aujourd'hui. Et donc, on était plutôt sur la partie asiatique. Taïwan, on le connaît, très bien positionné sur les semi-conducteurs. Exactement. Voilà. Donc voilà, tiré par ce fleuron. Mais effectivement, en Corée, le reste de la tech...
SK Hynix, c'est vraiment deux noms de boîtes qui font tout. Voilà.
Et donc, du coup, en fait, on a un alignement. Et donc, ça irrigue le reste de l'économie. C'est pas uniquement juste ces fleurons, mais ça permet, en fait, de créer tout un écosystème. Et donc, ces économies bénéficient, en fait, de ce virage, qui est une tendance de long terme que l'on ne voit pas totalement s'arrêter.
Merci infiniment, Arnaud Gian de BlackRock. Vous reviendrez nous parler des autres terres émergentes, parce qu'il n'y a pas que l'Asie, il y a l'Amérique du Sud, on parle beaucoup du Brésil aussi, qui en plus a du pétrole, donc qui est un pays assez complet niveau panorama d'investissement. On vous refera revenir, bien entendu, pour parler de ces pays émergents, toujours fascinants, toujours terres d'investissement.